Vous écoutez RTL.
RTL.
D'étranges lumières dans le ciel. Des objets se déplaçant à des vitesses incroyables, défiant les lois de la physique.
La curiosité d'un vilain défaut.
Des vaisseaux venus d'un autre monde. Mystère des ovnis fascine et déroute.
Sidonne Bonnec, Thomas Hugues.
C'est un phénomène, c'est une énigme qui passionne les terriens depuis très longtemps, notamment notre invité Franck Morin. Bienvenue, vous êtes romancier, conférencier, vous étudiez les ovnis depuis très longtemps.
Il y a plusieurs organismes privés ou publics en France qui les étudient. Alors je pourrais parler du GEPAN à Toulouse, qui est rattaché au Centre National d'Études Spatiales et qui a pour mission de collecter tous les cas d'ovnis et ensuite de les classer en 4 types qu'il appelle des phénomènes aériens non identifiés, A, B, C ou D. Les D étant les plus intrigants parce qu'ils présentent toutes les caractéristiques d'éléments inexplicables avec toutes les preuves, mais on ne peut pas...
Alors par rapport aux 500 signalements chaque année, quelle proportion
chaque mois. Ces chiffres-là, c'est un organisme qui s'appelle le MUFON, qui est basé aux États-Unis et qui regroupe 3000 membres dans le monde, dont une organisation en France, et qui a reçu effectivement pour le mois de janvier, c'est les dernières stats, 500 cas. Ces 500 cas, c'est dans le monde. C'est les chiffres du MUFON. Pour le GEPAN, qui traite uniquement les cas français, il en a actuellement à peu près 2200. C'est mis à jour régulièrement sur son site. Il en a recensé 2200.
Donc c'est un organisme très sérieux, ça, qui est basé à Toulouse. Vous vivez dans cette ville, je crois.
Tout à fait.
Vous disiez A, B, C, D.
Si on prend les trois catégories A qui sont identifiées, probablement identifiées au manque de données, les pannes C, les trois réunies, c'est 78% des cas.
Donc ça veut dire que 22% des observations d'OVNI restent, après étude de cet organisme officiel, inexpliquées.
Tout à fait. Et c'est à date, c'est sur la base d'une étude de 1170 cas. Voilà pour les chiffres exacts.
Franck Morin, pour vous, quel est le témoignage récent en France le plus fiable concernant les ovnis ?
Les vagues les plus étranges, celles qui recensent le plus de témoignages, il y a celle du 5 novembre 1990, où suite à une rentrée atmosphérique, des centaines, voire des milliers de témoins ont déclaré avoir vu autre chose, notamment des disques volants, et pour une minorité d'entre eux, des objets géants au sol.
Ça, moi, je suis très sceptique, pour être honnête.
Oui, je le comprends.
J'en ai jamais vu. Mais dans votre livre, Les mystères du phénomène OVNI, qui est publié aux éditions La Vallée Heureuse, vous racontez un cas, 1973, en Normandie. Et là, ça me fait douter, parce que ce sont deux militaires, deux pilotes d'hélicoptères de l'armée de terre. Qu'est-ce qu'ils voient ?
Donc, ils sont dans leur hélicoptère. Et tout d'un coup, il y a une énorme masse qui traverse le ciel très rapidement. Une forme de cigare, dont ils estiment la taille à 200 ou 300 mètres de long. Et qui traverse le ciel en quasiment une seconde. Donc, ils ont estimé la vitesse de l'objet à 9000 km par heure. Alors, qu'est-ce qui est étrange dans ce cas ? C'est que, ils sont deux témoins. Qu'on a une taille anormale, parce que 200 à 300 mètres de long, c'est supérieur à toutes les tailles d'avions construites dans le monde.
Il n'y a que deux témoins, c'est-à-dire que les deux pilotes, il n'y a pas de témoins extérieurs qui ont pu confirmer leur vision ?
Pas à ma connaissance. Par contre, un des deux pilotes a téléphoné à la base de contrôle qui a confirmé avoir eu un écho-radar. Ce qui est particulier, c'est la taille de l'objet, donc on l'a dit, mais aussi la vitesse. Parce qu'une telle vitesse, elle est supérieure au maximum jamais enregistré pour un vol habité, qui est le maximum, c'est 7200 km/h qu'on est obtenu.
En mars 1997, que se passe-t-il dans la ville de Phoenix ? Nous sommes dans l'ouest des États-Unis.
Alors, le 13 mars 1997, déjà quelques centaines de kilomètres de Phoenix, il y a des témoins qui vont signaler des lumières, puis un immense objet qui traverse le ciel. Vers 22h, au-dessus de la ville, alors qu'il fait noir, il y a plusieurs centaines de personnes qui appellent les policiers et les journaux pour signaler un énorme objet. Donc, ils estiment la taille à environ 1 miles.
Est-ce qu'il y a une vidéo ?
C'est-à-dire 1,6 km.
Attendez, la taille de l'OVNI ? Il ferait 1,6 km.
Alors pour l'anecdote,
ce qui est totalement impossible, vous nous l'expliquez pour des objets volants identifiés.
C'est-à-dire que là on serait sur une taille qui est 16 fois supérieure aux plus longs avions construits au monde.
Il y a des images, des vidéos. Est-ce que
oui. L'intérêt de ce cas, c'est qu'on a plusieurs vidéos.
Et on voit quoi sur ces vidéos?
Alors, on voit des lumières alignées en triangle et qui stabilisent pendant à peu près une quinzaine de minutes au-dessus de la ville.
Bon, si l'OVNI fait plus d'un kilomètre, j'imagine que ça, il y a de l'ombre, quoi. C'est sombre au-dessus sur la ville tout d'un coup, non?
Les témoins disaient même qu'ils voyaient plus le ciel parfois quand ils étaient en dessous.
Alors, que disent les autorités américaines de ce cas particulier, Mars 97, Phoenix?
Alors, pour ce cas, le gouverneur de l'Arizona, qui s'appelle Fife Symington, a organisé une conférence dans laquelle il a dédramatisé, il a ironisé sur le sujet. Il a été expliqué que c'était des fusées. Et effectivement, les militaires américains avaient lancé des fusées. Mais le souci de cette explication est qu'elle ne corrobore pas les faits pour plusieurs éléments. Quand on lâche une fusée éclairante, elle descend verticalement. Elle ne se promène pas horizontalement sur 500 km. En général, ça émet des panaches de fumée et des bruits qui n'ont pas été racontés par les témoins, puisque c'était plutôt le contraire. Ils disaient qu'il y avait un silence presque surnaturel au-dessus de la ville. Mmh. Et d'autre part, les fusées éclairantes, quand on les lâche, n'ont pas tendance à s'aligner en forme géométrique, surtout en V, puisque c'était la forme décrite par les témoins. Et quelques années plus tard, le gouverneur de l'Arizona a déclaré que lui aussi il avait vu l'objet, mais qu'il avait dû donner cette explication pour ne pas paniquer la population.
Et vous nous dites dans votre livre que c'est à partir de 1947 qu'on a commencé un peu, on va dire, scientifiquement à se pencher sur les apparitions d'OVNI. C'est aussi cette année-là, en 1947, que le mot soucoupe volante a été inventé. On va vous raconter comment.
Vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ça y est, tout le monde vole dans le studio de la curiosité. Il y en a qui font du vélo, qui tendent le doigt, évidemment. C'est la musique du film E.T. l'extraterrestre, parce qu'on vous parle d'un phénomène qui suscite beaucoup de questions. D'ailleurs, on attend vos réactions, tiens, au 3210 sur RTL.fr et puis sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter, avec le hashtag La Curiosité RTL. Les ovnis, les objets volants non identifiés. Franck Morin, quand on prononce ce mot, on pense aussi aux soucoupes volantes. Alors, je disais à l'instant, ça a été inventé en 1947. Qui crée ce mot? Qui invente le mot soucoupe volante?
Alors, c'est suite à l'observation d'un pilote qui s'appelait Kenneth Arnold, qui, en juin 1947, survolait le mont Rainier aux États-Unis. Et tout d'un coup, il a aperçu 9 objets en formation. Dans sa déclaration initiale qu'il a envoyée à l'US Air Force, il les a décrits comme des cercles avec une pointe à l'extrémité. Mmh. La particularité, c'est leur nombre, mais aussi le fait qu'ils volaient, d'après ses déclarations, à 2000 km par heure. Et Mach 1 n'a été passé officiellement au monde qu'en octobre 1947, c'est-à-dire quelques mois plus tard.
Ce pilote, c'est un pilote civil, hein, c'est pas un pilote militaire.
Un pilote privé.
Si je me souviens bien, c'est un pilote privé. Est-ce que lui... quand il parle de ces 9 objets-là, il parle de soucoupe volante. C'est lui qui emploie le terme ou pas ?
Il y a une confusion à la base, parce qu'il avait parlé du mouvement de ces objets. Il avait dit « ricochet comme des soucoupes volantes ». Et les journalistes qui l'ont interrogé ont retenu juste « soucoupe volante »,« flying saucers ». Et donc ils ont retranscrit ce terme par erreur.
Alors Kenneth Arnold, ce pilote privé qui voit ses, entre guillemets, c'est devenu des soucoupes volantes. Est-ce que le fait qu'il soit médiatisé, ça libère d'autres témoignages? Il y a une machine qui s'emballe? D'autres gens ont vu des ovnis?
Oui, la particularité de cette période-là, c'est qu'il y a une très forte intensité des observations d'ovnis. Ted Blucher, donc, qui a fait des recherches dans 140 journaux américains et canadiens, a repéré 850 cas rien que pour la période d'un mois entre le 15 juin et 15 juillet 1947.
C'est de la mode.
C'est de la mode, oui, c'est ça. On copie, on entend parler de ça dans les journaux.
Alors,
donc on en parlait.
Alors, comment savoir si c'est des canulars ou pas? Après, il faut rentrer dans le détail. Effectivement, 850 cas, pourquoi pas. Les études précises de ces articles de journaux révèlent qu'il y en a environ 250 qui sont multidocumentés. C'est-à-dire qu'ils ont été vus par plusieurs témoins, des familles entières, voire parfois par des foules. D'autre part, il y avait des scientifiques, des ingénieurs et des notables parmi les témoins. ce qui tend à prouver que ces observations étaient réelles et qu'il ne s'agissait pas d'une thèse de contagion, d'hystérie sociale, de canular et autres. Il y en a peut-être évidemment et invariablement qui se sont rajoutés. Mais l'étude des éléments montre qu'il y a un phénomène sérieux derrière et après c'est l'étude qui permettra de déterminer de quoi il s'agit.
D'accord, si je vous ai bien compris, pour un cas sur cinq, quoi, à peu près, hein, 250 sur 850, c'est ça?
Ça veut dire qu'il est multi-documenté.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il est un haut degré de
témoins.
Il a un haut degré de crédibilité, c'est ce que je. Et en général, c'est comme ça qu'on procède dans l'étude des cas. Ouais.
Vous, on l'a bien compris, vous croyez aux ovnis, mais est-ce que vous croyez aux extraterrestres?
Pour moi, c'est pas une croyance. Quand j'étudie un cas, je fais mon opinion à partir des éléments qui vont m'être rapportés. Est-ce que les témoignages sont crédibles? Est-ce qu'ils sont cohérents? Est-ce qu'ils sont certifiés par d'autres éléments, d'autres témoins, des enregistrements radar, des photos, des vidéos? À partir du moment où tous les éléments se cumulent, on peut arriver à une certaine crédibilité. Oui.
Alors pourquoi on n'entend pas, je sais pas, on parle pas de ça aux infos des ovnis? Il n'y a pas un scientifique qui dit un jour, on a vu un ovni, c'est officiellement un ovni. On n'a jamais entendu ça. Pourquoi? Parce que c'est tabou, on ne veut pas en parler, ou parce que les ovnis, on n'en a pas encore trouvé sur notre planète?
Concernant ces...
C'est frustrant pour vous,
est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? C'est une bonne question. Ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a un cas qui est régional, il est reporté dans la presse régionale. Si c'est des cas avec une certaine ampleur, ils sont reportés dans la presse nationale. Après, c'est une question d'intérêt. Il y a des organismes en France qui les étudient. J'avais cité le GEPAN, mais il y a aussi d'autres commissions. Par exemple, UFO Science, qui étudie plutôt les modes de propulsion possibles. Commission 3F Sigma.
C'est des recherches, il n'y a pas une affirmation de l'existence ou pas, ou de la visite d'un ovni.
Reprenons la définition. Objet volant non identifié. Ce qui signifie qu'on a aperçu dans le ciel un phénomène ou un objet dont on ne connaît pas la nature. Donc il n'y a rien de mystérieux à la base là-dedans. Et après, c'est en étudiant les faits qu'on va déterminer si on a affaire à un phénomène naturel expliqué, et les trois quarts des cas le sont. Et ensuite, il reste des cas qui ne sont pas explicables. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un comportement intelligent, parce qu'ils ont une taille anormale, parce qu'ils ont une vitesse qui défie et pulvérise les records mondiaux, des manœuvres impossibles comme du vol stationnaire suivi d'accélération, des changements de couleur, des changements de forme. Donc dans toutes les vagues d'OVNI, que ce soit été en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique ou en Océanie, on a eu ces caractéristiques qui se sont répétées. Et c'est là que le cas devient intrigant.
Mais il y a aussi des canulars. Roswell qui démarre aussi en 47. Moi je me souviens d'un documentaire dans les années 90 fait par un Anglais, ou soi-disant, il avait des images de l'autopsie de l'extraterrestre, et puis on s'est rendu compte que c'était complètement bidon. Donc ça, évidemment, après, on se dit, c'est n'importe quoi.
Roswell, c'est un cas assez compliqué. Il faut revenir sur les faits. En début juillet 1947, un fermier, suite à une nuit d'orage, trouve des morceaux éparpillés sur une large distance dans son champ. Donc il collecte quelques débris, il les montre à ses voisins, il appelle les autorités, l'armée arrive et boucle la zone. Le 8 juillet, Walter Haut, qui est responsable de la communication de la base stratégique de Roswell, annonce que des débris de soucoupe volante ont été capturés. Alors ça fait le tour de la presse mondiale. Mais dans la même journée, son supérieur, le général Ramey, émet un démenti en disant que c'était pas une soucoupe volante. C'est la dernière fois que les autorités américaines vont admettre qu'il s'est passé quelque chose, ça aura duré qu'une journée.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous écoutez RTL.
Cet engin en forme de cigare fut saisi sur pellicule alors qu'il stationnait au-dessus de Rhode Island en 1967.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Je n'ai pas peur des fantômes. Enfin, je ne crois pas.
La curiosité est un vilain défaut.
Le cerveau a tendance à se mettre en alerte.
RTL.
Franck Morin est notre invité. Vous enquêtez sur les ovnis depuis des années. Vous avez une formation d'école de commerce, c'est ça? Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste des ovnis? C'est quoi?
Parce que c'est une énigme qui est très intéressante, qui est toujours pas résolue et surtout qui est documentée. C'est pas un mystère.
Et vous en avez vu?
Jamais.
Ça doit être frustrant, ça, quand même. Alors, on parlait de Roswell. Roswell, 1947, donc vous nous expliquiez ce double discours de l'armée américaine. D'abord, un communiqué qui dit « oui, c'est une soucoupe volante », puis un démenti. Ça a été une polémique, on va aller vite, hein. Mais moi je me souviens, donc je suis têtu, hein, j'en reparle de ce documentaire, 95, documentaire anglais, on voit des images d'autopsie, sauf qu'on apprend très vite que c'est un canular, c'est ça ?
Oui, je le confirme. C'était un canular, donc c'est un producteur qui s'appelle Ray Santilli, et qui avait utilisé un mannequin, et qui avait monté ce canular, qu'il a revendu à de nombreuses chaînes de télévision dans le monde. Mm-hmm. Et puis après, bon, ça a été démonté, parce qu'il y avait des anomalies qui ont été constatés par des chirurgiens, et puis le canular a été avoué.
Et du coup, aujourd'hui, dans l'opinion, tout le monde pense que Roswell est un canular, alors qu'au départ, on peut avoir quelques doutes.
Il y a du pour et du contre sur Roswell. Pour résumer très vite, il y a effectivement des éléments suspects qui laissent penser qu'il s'est passé quelque chose à Roswell, parce que toutes les archives ont été détruites par l'armée. On ne sait pas par qui, mais l'ordre a été donné. Il y a eu des intimidations de témoins et d'organes de presse. Une étude menée dans les années 1980 par Charles Berlis et William Moore, qui a interrogé 90 témoins et qui a trouvé des éléments suspects. Tout laisse à penser qu'il s'est passé quelque chose. Walter Holt aussi, qui a fait une déclaration sur son lit de mort, disant qu'il avait bien vu dans un hangar une soucoupe et puis des êtres étranges. Mais d'un autre côté, il y a tous ces canulars, ces désinformations. Donc il faut être très prudent sur Roswell. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé.
Allez, un autre cas dont on a parlé sur RTL cet été.
Oui, cet été, c'est Didier Van Cauwelaert, l'écrivain, qui racontait dans Les Aventuriers de l'Impossible avec Jacques Pradel. Écoutez cette histoire.
Ce que l'on sait, même si cela n'a jamais été dévoilé au grand jour, c'est que des transmutations se sont produites au sein du réacteur au moment de l'accident. Par exemple, on y a trouvé une dizaine de tonnes d'aluminium, métal qui est totalement étranger à la construction d'un réacteur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ce qu'on peut faire, c'est de mettre en parallèle les témoignages de centaines de personnes qui ont observé un gigantesque ovni en vol stationnaire durant 6 heures au-dessus du réacteur.
On parle de Tchernobyl.
Du réacteur, évidemment, de Tchernobyl. Vous connaissiez cette histoire, Franck Morin ?
J'en avais entendu parler, mais je n'avais pas le nombre de témoignages.
Et les témoignages concernant cet ovni au-dessus de la centrale, vous savez s'ils ont été nombreux, ou c'est la première fois que vous entendez parler de ça ?
J'avais entendu parler des faits, mais sans personne, je ne savais pas.
Il y a beaucoup de témoignages autour des ovnis qui sont reliés au nucléaire, puisque là on parle d'un accident.
Par contre, effectivement, de manière plus large, dès 1948, des documents déclassifiés légalement aux USA démontrent qu'il y avait des aérolithes verts qui survolaient les centrales nucléaires.
C'est quoi les aérolithes verts ?
C'est des aérolithes, donc c'est des aéronefs. Donc avec un comportement intelligent. Donc il y a une conférence qui avait été organisée à Los Alamos, où vous avez invité le docteur Lincoln Lapas, qui était un spécialiste des météorites, pour essayer de savoir si c'était ça. Et la vitesse enregistrée de ces gens-là allait de 17 000 à 69 000 km/h, bon, ce qui est impossible carrément dans l'atmosphère, et ils survolaient tout le complexe militaro-industriel américain et surtout nucléaire. C'était le début.
Franck Morin, il y a un lien entre le nucléaire et les ovnis, parce que hors antenne, vous nous disiez qu'à Fukushima, on a vu aussi un cigare volant se balader au-dessus des centrales ?
Oui, on pense effectivement, il y a beaucoup d'auteurs qui pensent qu'il y a un lien entre le nucléaire et les ovnis, parce que les survols de centrales nucléaires dans beaucoup de pays par des ovnis ont été signalés. On en a eu en France, on en a eu en Europe, on en a eu aux États-Unis, en Russie. De solutions, soit ça pourrait être des engins espions, parce que comme c'est des centrales stratégiques qui peuvent être espionnées par d'autres pays, ou alors il s'agit d'une autre intelligence. Les deux hypothèses.
Ils nous piquent notre énergie.
Ou peut-être plus du tout pour les surveiller.
Ouais. Alors, il y a d'une manière générale, les autorités, les gouvernements, les militaires ou les ministres de la Défense pratiquent pas la transparence sur la question des ovnis. C'est même plutôt tout le contraire. Il y a un contre-exemple. Ça se passe en Belgique. Tout commence le 29 novembre 1989. Que se passe-t-il là-bas chez nos voisins belges, Franck Morin ?
140 observations d'ovnis ont été rapportées par des témoins. Donc ça, c'est les chiffres donnés par le colonel de Brouwer, qui était le responsable de la force aérienne belge. Et pendant 2 ans, partout en Belgique, on va apercevoir des triangles volants à très basse altitude, évoluant silencieusement dans la campagne, éclairant le sol de projecteurs.
On a des images de ces ovnis.
Plusieurs. Donc la RTBF, donc chaîne TV belge, avait diffusé quelques photos et vidéos. Elles sont assez rares, je le reconnais.
C'est bluffant à voir.
On voit trois points évoluer. Alors, ce qui est curieux, c'est les caractéristiques de ces engins. Parce qu'au départ, on a pensé que c'était des avions américains, par exemple des F-117, qui sont en forme de triangle. Mais ces avions américains de chasse ne peuvent pas évoluer à moins de 300 km/h. Et surtout, ils ne sont pas silencieux.
Mais surtout, je reviens là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que le colonel dont vous parlez, donc l'armée belge, organise une conférence de presse. Donne des infos, des images, les partage avec des spécialistes des ovnis comme vous, quoi.
C'était la première fois qu'un pays au monde et surtout une armée accepte de divulguer officiellement des informations sur les ovnis, et notamment une course-poursuite qui s'est faite le 30 mars 90 où des chasseurs ont poursuivi des ovnis en enregistrant leurs performances. Et le colonel De Brouwer a notamment dit lors de cette conférence de presse que les performances de ces engins correspondaient à encaisser 30 ou 40 G, ce qui signifiait la mort d'un pilote.
Mais ils ont perdu ridicule, ceux qui hésitent à en parler.
Maintenant, c'est plus un sujet ridicule, d'abord parce que ça intéresse les militaires, quoi qu'ils en disent, parce que ce sont des questions de défense nationale, c'est normal. À partir du moment où il y a des objets non identifiés qui traversent un territoire, il est normal, et il serait même impensable d'ailleurs que de pas faire d'enquête.
Merci beaucoup Franck Morin, c'était passionnant. On était plutôt, voire très sceptique au démarrage, et vous nous avez en partie convaincu. Votre livre, Les mystères du phénomène OVNI, de la préhistoire à nos jours, c'est publié aux éditions La Vallée Heureuse. Et c'est la fin de cette première émission de la semaine. On vous donne rendez-vous demain dans notre cabinet de curiosité à 20h.
Alors, dans ce cabinet de curiosité, qu'est-ce qu'on va trouver? La presse qui fait basculer l'histoire, des gourmands célèbres et la vie des animaux en hiver.
Bonne soirée à tous. Dans un instant, c'est RTL. Grand soir, à demain.
Vous écoutez RTL.